bonjour à tous, c'est désormais un rendez-vous traditionnel à l'approche de Noël. Nous vous proposons de faire le point sur le journalisme d'investigation et ce en dialoguant avec quatre de mes confrères. Sont donc aujourd'hui avec nous Élise Lucet de France Télévisions, qu'on connaît notamment pour Envoyé Spécial et Cache Investigation. Bonjour.
Bonjour à vous.
Luc Brunner, directeur de la rédaction du journal Le Monde. Bonjour Luc.
Bonjour.
Fabrice Arfi, qui est responsable des enquêtes à Mediapart. Bonjour également.
Bonjour.
Et puis Jacques Trenceau, qui est fondateur du site d'investigation régionale Médiacité. Bonjour Jacques.
Bonjour à tous.
Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Il y a des documents classés confidentiel défense ou secret défense, on appelle ça des documents classifiés. Et toute personne non habilitée à en avoir la possession est soumise à une poursuite judiciaire de toute façon. Et s'il n'y a plus de secret défense ou de confidentiel défense ou de documents classifiés pour assurer la sécurité de notre pays, alors on va dans une situation extrêmement compliquée. Donc je maintiens ce point de vue, on n'a pas le droit d'avoir une diffusion de ces documents.
Voilà, ça c'était Jean-Yves Le Drian, que vous avez probablement reconnu sur France Inter, au micro de Nicolas Demorand, parce que parmi les faits qui ont marqué l'année 2019, eh bien, il y a eu la convocation à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, de 8 journalistes, dont Benoît Colomba, d'ailleurs, de la cellule Investigation de Radio France. Avec nos confrères de Disclose et de Mediapart, nous avions révélé l'existence d'une note classée confidentielle défense, qui montrait que des armes françaises étaient bien utilisées dans le cadre du conflit de la guerre au Yémen. Alors, ma question, elle sera simple pour commencer. Est-ce que, selon vous, on est dans une situation normale? C'est-à-dire, il y a une loi pour informer nos auditeurs, nous l'avons enfreinte en connaissance de cause. Et le ministère de la Défense est finalement dans son rôle de vouloir, sinon nous poursuivre, au moins nous entendre. Ou bien est-ce que vous considérez que ces convocations sont une menace pour la liberté de la presse, qui, dans certains cas, doit s'affranchir du droit commun? Élise Lucet, vous êtes à ma gauche, alors vous en pensez quoi?
Moi, je pense que c'est d'abord un gros coup de pression. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit à des journalistes, vous n'avez pas le droit de révéler des choses qui, pour moi, sont véritablement susceptibles d'intéresser le grand public. Est-ce que le grand public a envie de savoir que la France vend des armes à l'Arabie Saoudite pour notamment bombarder le Yémen? Moi, ma réponse, c'est oui. Et là, on est en train de nous dire à un moment, pas touche, il faut pas toucher à ce genre de dossier. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que même s'il y a un secret défense, si ces informations sont susceptibles, et je pense qu'elles sont susceptibles d'intéresser le grand public, c'est notre devoir de nous y intéresser et de révéler ce genre de choses.
Mais est-ce qu'on peut, parce que la question de fond, elle est là, est-ce qu'on peut s'affranchir de la loi?
Sur cette affaire-là, très précisément, pour moi, oui, clairement, on a tous enquêté sur ces ventes d'armes à l'Arabie Saoudite pour bombarder le Yémen, et ça me semble très important que sur ce genre de choses, on puisse, nous, révéler ça au grand public. Nous affranchir de la loi, certes, mais c'est très arbitraire, le secret défense, de fait. C'est décidé par le pouvoir, et ça nous est arrivé à plusieurs reprises sur d'autres dossiers de le faire, et je pense franchement que sur ce genre de dossier, oui.
Fabrice Arfi, on est au-dessus des lois?
Non, pas du tout. On n'est pas du tout au-dessus des lois. Il faut bien remettre en contexte. Ça fait des années, depuis que le président Macron est président de la République, qu'il dit qu'il n'y a pas d'armes françaises utilisées au Yémen. La ministre des Armées, Florence Parly, l'a dit, y compris au micro de France Inter, à une matinale dont les mots résonnent encore dans ma tête. Nous, journalistes, nous avons des documents qui viennent du cœur de la machine étatique, de la direction du renseignement militaire, qui prouvent l'inverse. Nous ne sommes pas au-dessus des lois. Décentrons-nous un tout petit peu, regardons ce qui s'est passé dans d'autres pays. Il y a une très grande affaire qui a donné lieu à un très beau film, très classique, de Steven Spielberg, qui s'appelle les Pentagon Papers. C'est un agent du renseignement du Pentagone dans les années 70 qui a des milliers de documents secrets défense qui prouvent que le gouvernement américain a menti sous plusieurs présidences sur la guerre au Vietnam. Il y a eu une procédure contre les journaux qui ont révélé ça, le New York Times et le Washington Post. C'est allé jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême des États-Unis a dit, attendez, bien sûr que les documents sont secret défense, mais les informations sont d'intérêt public, a fortiori face aux mensonges du gouvernement. Le débat n'est pas seulement celui de l'origine d'un document secret défense, couvert par le secret de l'instruction, éventuellement secret médical, c'est son contenu. c'est son contenu. Est-ce qu'il y a une mise en danger de quiconque dans les documents que nous avons révélés avec France Inter et d'autres sur la guerre au Yémen? Aucun. Précisément, nous avons fait attention à ce que n'y ait pas, par exemple, des positions françaises qui soient révélées, des identités de militaires, des informateurs de l'armée française ou étrangère. Nous avions un document, nous avions tous ensemble un document qui prouvait que le sommet de l'État mentait sur ce qui est considéré par l'ONU comme la plus grave crise humanitaire au monde. 5 millions d'enfants menacés par la famine. Et quelle est la conséquence de cela ? Aucune remise en cause du pouvoir qui ment. En revanche, on entend les journalistes comme suspects. Alors oui, c'est inquiétant.
Luc Brunner, vous étiez concerné d'ailleurs vous aussi par cette audition.
Oui, Ariane Chemin, qui a travaillé sur les affaires Benalla, a été elle aussi convoquée, ainsi que le directeur de la publication Louis Dreyfus, qui ont été tous les deux convoqués par la DGSI. Donc effectivement, les services
secrets... C'était plus étonnant d'ailleurs, parce qu'on voit pas comment Louis Dreyfus serait au courant de...
Non, moi je le vois comme... Non, il a découvert...
De l'existence des documents.
Les digues sont bien posées au sein du journal, et donc il a découvert nos informations comme il le découvre, c'est-à-dire lorsque nous les publions, donc il avait aucune information, mais je pense que ça participe là d'une volonté, d'une forme de pression. Le message, il est fait pour intimider, je pense, quand on convoque comme ça des journalistes, en sachant pertinemment qu'ils ne diront rien, puisque évidemment, les journalistes peuvent être protégés par le secret des sources, qui est un droit démocratique fondamental. Donc je pense qu'on est bien dans une forme de pression. Je pense qu'on est dans un moment de tension démocratique qui, pour une part, est légitime, que le secret... d'État s'oppose au droit à l'information, c'est un questionnement qui est historique et qui continuera de traverser nos démocraties pour des bonnes raisons et qui est en permanence un questionnement sur la bonne ligne et me semble-t-il pertinent. En l'occurrence, à propos du travail qui a été fait sur le Yémen, le travail que vous avez fait sur le Yémen, c'est évidemment, et Fabrice le disait, un travail d'intérêt public. Quoi de plus important que la façon dont un pays fait la guerre ou contribue à la guerre dans un autre État? Y a-t-il sujet démocratique plus important? Je ne crois pas. Et d'autre part, et ça nous était arrivé aussi quand on a été poursuivi sur des révélations qu'on avait fait sur la Syrie, à chaque fois, les médias font très attention de ne jamais mettre en danger quelconque responsable ou intervenant militaire. De ce point de vue-là, il y a une responsabilité très grande. Et à chaque fois qu'on a des documents qui pourraient avoir des conséquences sur des militaires en opération, évidemment, pour le coup, on n'en fait jamais état. Donc, voilà, je pense que on est dans un moment qui est inquiétant entre les évolutions sur le secret des affaires, la pression qui est mise sur le secret défense, des discussions en cours sur le secret de l'instruction. On voit bien que la tentation des pouvoirs est de restreindre toujours un peu plus. Alors, la liberté de perquisition.
On en parlera tout à l'heure du secret de la réforme possible du secret de l'instruction. Mais donc, si je vous entends bien, il y a deux notions. Il y a l'intérêt public et puis il y a aussi la responsabilité, c'est-à-dire faire en sorte effectivement de ne compromettre personne et d'assurer la sécurité des personnes qui peuvent potentiellement d'ailleurs se trouver sur le terrain ou ailleurs. Jacques Trenceau, alors à Mediacité, vous avez été confronté, vous, à la question du secret défense ?
On n'a pas encore été convoqué par la DGSI, mais pour moi, le bon curseur, c'est l'intention, c'est-à-dire pourquoi on fait notre métier. Et donc, on n'est pas au-dessus des lois, mais on le fait parce que on estime que les informations revêtent un caractère d'intérêt général. C'est pour ça. Parfois, il faut aussi aller au-delà de la loi pour porter à la connaissance du public des informations d'intérêt général.
Vendredi soir en France, nous avons été des millions à croire vraie une chose complètement fausse. Non, Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes, n'a pas été arrêté. Mais vendredi soir, tout le monde y a cru, sauf les proches du retraité français interpellé par la police écossaise. Eux savaient que c'était impossible.
Alors celui que vous venez d'entendre là, c'est le journaliste du Parisien, Jules Lavie, qui revient dans un podcast de son journal sur le fiasco médiatique de 2019, hein, on peut l'appeler comme ça, qui concerne du coup d'ailleurs la presse dans son ensemble, hein, pas que les journalistes d'investigation. Et je dois vous dire que on organise de temps en temps à Radio France des rencontres avec les auditeurs en région, et cette question revient de manière récurrente. C'est pour ça que je voulais qu'on l'aborde quand même aujourd'hui. Nombreux sont donc les médias qui, dans le sillage du Parisien, ont annoncé cette arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Or, elle était fausse. Alors, j'aimerais entendre votre analyse avec le recul, peut-être, là-dessus, parce qu'on s'est beaucoup posé la question. Qui a eu tort? Est-ce que c'est la police? Est-ce que ce sont les journalistes? Est-ce qu'on a commis une faute? Qui s'est trompé dans cette histoire? Et est-ce qu'on s'est trompé, Élise Lucet?
Ah oui, on s'est trompé. Ah oui, oui, oui. Enfin, je pense que oui. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les spécialistes police-justice de la maison, qui certes, ce jour-là, avaient 5 sources différentes, qui leur disaient tous, sources très haut placées au niveau policier.
Différentes et pas tout à fait différentes.
Exactement. C'est ça qui est très intéressant, d'ailleurs. C'est différentes et pas tout à fait différentes. C'est-à-dire 5 sources différentes au sens où il y avait des policiers et aussi, d'après ce qu'on m'a dit, du parquet, qui leur ont confirmé effectivement l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, ils sont allés à l'antenne en révélant ça. Moi, je salue aussi nos confrères d'Europe 1. Pardon, je suis sur France Inter, mais je les salue parce que c'est les premiers qui sont allés sur le terrain, juste voir exactement à l'endroit où habitait ce suspect.
On y était aussi, hein, France Inter.
Alors peut-être voilà. Juste 10 minutes plus tard. Mais en l'occurrence, moi j'ai envie de dire franchement, et c'est là où vous avez raison Jacques, c'était pas 5 sources différentes. Il y avait énormément de sources qui arrivaient des plus hauts niveaux de la police et qui en fait se recoupaient entre elles. Mais c'était les mêmes personnes qui s'exprimaient. Donc là, nous, on a eu un défaut de vigilance énorme qu'on a tous reconnu. Immédiatement, nous, le directeur de l'info, Yannick Le Tranchant, s'est excusé. Il y a eu des séminaires chez nous pour re-rappeler à tous les journalistes...
Ça a tangué dans pas mal de médias.
Oui, pour re-rappeler quelles étaient les règles du break news. Et ça a vraiment donné lieu à un séminaire, à des rappels très précis qui ont été envoyés à tous les journalistes des différentes rédactions de France Télévisions pour que ça ne se reproduise pas. Mais on peut pas dire, objectivement, nous, face au public qui nous interpelle, comme pour vous à Radio France, pour nous à France Télévisions, c'est la même chose, dans des rencontres en province, à Paris ou sur nos sites internet, qu'on s'est pas trompé. Enfin, oui, on s'est trompé.
Alors Luc Brunner, c'est intéressant de vous entendre parce que, pas dans le journal mais sur le site, effectivement, vous êtes tombé dans le même panneau que nous.
Oui, je pense que, alors moi je suis sur les mêmes termes, c'est un raté, je pense que dans ces cas-là, il faut surtout pas chercher à dissimuler ce qui est un raté collectif des médias sur ce sujet. Ça doit nous appeler à une grande prudence sur les sources et c'est vrai que là, le piège était assez parfait dans la mesure où on a tous vérifié l'information du Parisien, on l'a tous eu à peu près au même temps en réalité, avec des sources qui nous paraissaient différentes, sans savoir qu'en fait, tout amené probablement vers une même source qui était un policier écossais qui, de bonne foi, probablement avait donné cette information. Là où, moi, je trouve que ça nous amène à tirer des conséquences très concrètes, c'est dans la formulation. C'est que je pense que si le vendredi soir, on avait simplement écrit « Un homme suspecté d'être Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé par la police écossaise », pour le coup, c'était vrai. Et ce niveau de protection, de précaution, faisait que l'information pouvait être diffusé et on aurait su quelques heures après que ça n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Donc moi ça m'incite plutôt à une plus grande précaution et une plus grande réflexion sur les formulations dans ces moments qui sont
dans la sémantique suspecté ou alors on peut sourcer aussi, c'est-à-dire
oui,
dire
mais cet homme
la
était
police
bien suspecté.
Pense avoir arrêté. Mmh.
Cet homme était suspecté d'Xavier et factuellement c'est imparable, c'est le cas. C'est vrai qu'on a tous titré trop rapidement parce que nos sources nous le disaient, Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté, ce qui n'était pas le cas.
Fabrice Arfi, comment vous avez vécu cet épisode? Vous n'êtes pas tombé dedans?
Oui, mais alors je pourrais faire le malin en disant nous on n'est pas tombé dedans. En réalité, on n'est pas tombé dedans parce qu'on n'écrit pas sur les faits divers.
Parce que vous n'êtes pas voilà, sur le news, sur le show.
Oui, donc je vais pas. Bon, ouais. Mais c'est quand même. Mais je dis ça et en même temps, on a fait une petite réunion au sein du service enquête le lundi matin sur. Imaginons que ce soit un sujet qui rentre dans les tropismes de Mediapart. Comment on aurait agi. Bon, ce que j'ai trouvé fascinant, pour pas redire ce qui a déjà été très bien dit, c'est en quelque sorte la fausse force contraignante de la preuve scientifique dans cette histoire. Mais on nous dit les empreintes ont matché, et à partir du moment où il y a cette soi-disant preuve scientifique des empreintes qui ont matché, des journalistes ont écrit « C'est incroyable, les policiers en voyant cette personne, il était méconnaissable ». Bah oui, il était tellement méconnaissable qu'en fait, ça n'était pas lui. Alors, quand on voit les deux photos,
Fabrice, je me souviens avoir entendu à ce moment-là certains confrères nous expliquer qu'il avait utilisé de la chirurgie esthétique pour se refaire le visage. Je sais pas où on a trouvé ça, mais en tout cas, on y est arrivé.
Mais oui, et ça, je pense que, alors, je suis sûr, on va pas rentrer dans la psyché et les âmes des journalistes, mais je pense qu'il y a quelque chose là lié à l'effet de la force scientifique des empreintes. Après, on découvre que, en fait, le système de comparaison des empreintes les Écossais n'est pas le même qu'en France, etc., etc. Et donc, tout ça mélangé, c'est vrai qu'on avait un cocktail parfait pour un raté journalistique.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Je crois que ce secret de l'instruction, c'est une obligation qui est justifiée par l'intérêt général. Sinon, il ne pourrait pas être d'ordre public. Ce secret a une place considérable dans l'exercice et dans le fonctionnement, voire dans la réalisation de la justice. Il a de fortes justifications dans la préservation d'informations confidentielles. Je crois important que ces informations restent secrètes.
Voilà, ça c'était Jean-Jacques Urvoas en 2016 qui s'exprime sur le secret de l'instruction alors qu'il est encore garde des Sceaux. C'est assez savoureux hein, d'entendre ça aujourd'hui lorsqu'on sait qu'il a été condamné en septembre dernier pour avoir divulgué des informations confidentielles au député Thierry Soler. Alors si j'ai choisi de vous faire entendre cet extrait, c'est surtout parce que en ce moment, deux députés de La République En Marche et des Républicains planchent sur une mission d'information qui a justement pour but de proposer une réforme du secret de l'instruction parce qu'ils considèrent qu'il y a trop de fuites dans la presse et pas assez de sanctions. Luc Brunner, vous qui suivez tout particulièrement ce dossier, deux questions. Donc, d'abord, est-ce que effectivement vous considérez qu'il y a trop de fuites dans la presse? Et à votre connaissance, qu'est-ce qui se prépare?
Alors, d'abord, il faut rappeler que les journalistes ne sont pas tenus au secret de l'instruction. C'est un rappel fondamental. Nous ne sommes pas dans les instructions, donc nous ne sommes pas tenus au secret auquel sont tenus notamment les magistrats et les policiers et les gendarmes. Les avocats sont tenus à une forme de secret professionnel. Donc, on n'est pas tenu. On peut néanmoins être condamné sur du recel de violation du secret de l'instruction lorsque nous publions des pièces de l'instruction. Non pas lorsque nous citons des pièces de l'instruction. C'est tout le paradoxe de la situation.
Précisons qu'effectivement, il y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on a le droit de connaître le dossier, de savoir ce qu'il y a dedans et éventuellement d'en parler, mais on n'a pas le droit de publier ou de détenir ces pièces.
Exactement. Et l'autre particularité, c'est que lorsque nous sommes attaqués en diffamation, on a le droit de produire ces pièces à l'audience pour se défendre. Donc on est dans un droit qui a quelques...
On a le droit de les avoir, mais de ne pas les avoir.
Voilà, quelques bizarrerie. Ce qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est que cette mission d'enquête, sous l'apparence d'une présentation d'un rapport assez équilibré entre d'une part le maintien du secret d'instruction et d'autre part l'affirmation d'un droit à l'information, conclut à l'idée qu'il faut durcir les sanctions pour les personnes qui commettraient cette violation du secret d'instruction et le durcir de façon très forte, puisque à ma connaissance, leur idée, c'est de passer d'une peine de prison d'un an à une peine de 3 ans de prison et 15 000 euros à 30 000 euros d'amende. Ce qui veut dire qu'on est dans un message de durcissement. Mais je pense que le message s'adresse une fois de plus aux sources. Avec ce message, vous risquez gros lorsque vous donnez des informations à des journalistes. Donc je pense que malheureusement, les conclusions de cette mission d'enquête sont des conclusions qui portent atteinte au travail des journalistes.
Fabrice Arfi pour Mediapart.
Est-ce qu'il faut du secret en démocratie? Est-ce qu'il faut du secret défense? Est-ce qu'il faut du secret de l'instruction? Est-ce qu'il faut du secret de la vie privée? Est-ce qu'il faut du secret médical? Est-ce qu'il faut du secret des affaires? Oui, 3 fois oui, 1000 fois oui. Mais encore faut-il que ce secret soit bien défini et bien contrôlé. Notre expérience, je crois, en tant que journaliste, je ne peux pas parler au nom de mes confrères, la mienne depuis 20 ans que je fais ce métier pour ce qui est de la France, c'est que le secret, il est mal défini et il est mal contrôlé. Si vous ajoutez à cela ce qui est l'essence même du travail de journaliste, qui consiste à avoir des informations auprès de gens qui sont pas censés nous les donner, voire qui violent un règlement ou la loi pour nous les donner. C'est pour ça qu'on a inventé le secret des sources. Si on retire ça aux journalistes, alors nous sommes condamnés à recopier les communiqués de presse, le journal officiel de la République et les bulletins municipaux de je ne sais quelle commune. C'est notre boulot de publier des informations vraies et d'intérêt public que parfois des gens sont pas censés nous donner. Sans source, nous ne sommes rien. Je vais prendre un exemple mondial, Edward Snowden. Edward Snowden, il subtilise au service de renseignement américain, la CIA, la NSA, des documents qui prouvent que, en contradiction avec la Constitution américaine, les États-Unis opèrent une surveillance de masse dans le monde, y compris contre leurs propres citoyens. Et ben, cet homme qui a révélé ces faits, qui ont été d'ailleurs condamnés par la justice américaine pour ceux qui faisaient cette surveillance de masse, est aujourd'hui passible de poursuites criminelles aux États-Unis. Il est obligé de vivre en exil à l'étranger, etc. Bon, c'est comme les Pentagon Papers, hein. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Donc, voilà, c'est une nouvelle inquiétude qui vient se surajouter. Je peux en témoigner à titre personnel de la tentative de perquisition qu'il y a eu cette année en 2019 à Mediapart, qui a la même fin, trouver les sources d'un journal face parfois à un pouvoir qui le dérange.
Élise Jusset, votre sentiment?
Totalement d'accord avec Fabrice et avec Luc, d'autant que les sources, elles sont déjà dans des situations extrêmement délicates. Je veux dire, toutes nos sources qui se sont retrouvées à un moment au grand jour ont quand même, pour la plupart, et quand je dis la plupart, c'est 99,9%, perdu leur job, n'en ont pas retrouvé, ont été blacklistés. Ce sont des gens qui sont dans des situations personnelles extrêmement difficiles aujourd'hui. Il faut saluer saluer, les saluer, saluer leur courage. Clairement, leur vie a été souvent brisée par le fait qu'ils nous aient confié des informations à chacun d'entre nous et qu'elles aient été publiées. Il y a quelques sources qui ont réussi à rester anonymes. Tant mieux, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui pour les sources quand elles ne sont plus anonymes, c'est tout simplement catastrophique. Donc, toute nouvelle menace qu'on fait peser sur ces sources, et en l'occurrence, la possible réforme du secret de l'instruction en est une, le secret des affaires en est une aussi, fait vraiment reculer ces gens qui, pourtant, prennent des risques immenses pour faire émerger la vérité dans des dossiers qui sont extrêmement complexes, mais qui sont extrêmement intéressants pour le grand public. Après, moi, je suis d'accord avec vous, Jacques Monin, sur l'hypocrisie, c'est-à-dire aujourd'hui, les mises en examen eux-mêmes ont accès à tout le dossier, et pour cause, et peuvent le rendre public. Donc on est dans une hypocrisie en nous disant à un moment, les mises en examen peuvent parler de leur dossier sans aucun problème à l'extérieur, mais vous, journaliste, vous pouvez être poursuivi pour recel. Et puis on peut être poursuivi pour recel, mais Luc le disait, c'est quand même complètement fou que si on est poursuivi en diffamation, on puisse nous produire des pièces que légalement on n'est pas censé avoir. Donc cette hypocrisie existe réellement aujourd'hui, il faut y mettre fin, mais certainement pas, effectivement, en s'engageant dans cette réforme du secret de l'instruction.
Jacques Trenceau.
Ce que je peux témoigner, c'est l'outil dont on s'est doté à Mediacité pour que des sources anonymes sécurisées remontent. Nous, nous sommes spécialisés sur l'investigation.
Et vous
locale.
Avez des pièces de dossiers d'instruction qui remontent à travers ça?
Nous avons des documents, pas forcément des pièces de...
Non, mais couverts par le secret de l'instruction?
En tout cas, nous avons énormément de documents. On en a plus de 200 signalements, dont des documents, parfois couvert par le secret d'instruction, je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, on a été étonnés tous à Mediacité de voir le nombre de remontées par cette plateforme. D'autres médias se sont dotés de même plateforme, mais nous, on l'a positionné au niveau local, et là, on voit que des sources, des gens qui comprennent qu'il y a un intérêt à transcender leur devoir de réserve, leur obligation professionnelle pour informer la presse, il y a du répondant citoyen. Et ça, ça inspire confiance, et ça vient contrer les pressions du pouvoir dont on a parlé.
Secret d'info sur France Inter.
L'idée, c'est toujours de faire une instance qui soit indépendante, qui autorégule les médias, mais de façon complètement indépendante, en dehors du pouvoir politique, et surtout où il y ait trois parties qui soient représentées, oui. Les journalistes, les entreprises et le public. L'information a complètement changé depuis une dizaine d'années. L'irruption des réseaux sociaux qui font une pression considérable sur les médias installés, on va dire, ceux qui existent depuis plus longtemps. Il faut absolument répondre à ce public.
Alors ça, c'était Patrick Evenot, le président du tout nouveau conseil de déontologie de l'information qui a été créé au début du mois de décembre. Alors c'est pas un ordre, comme il en existe un pour les médecins ou les avocats, mais c'est une structure qui va recueillir les doléances du public et qui pourra non pas prendre des sanctions, mais rendre des avis. Alors là encore, c'est quoi votre sentiment? Les défenseurs de l'initiative disent « la presse n'est pas une galaxie hors sol, nous devons nous aussi rendre des comptes ». Et puis d'autres disent au contraire « c'est une instance de plus qui ne sera pas vraiment représentée des journalistes et qui, du reste, risque d'être au service du pouvoir. Alors là, je vais donner d'abord la parole à Jacques Trenceau qu'on vient d'entendre. Si j'ai bien compris, vous justifiez, donc vous êtes pour l'existence d'un tel conseil de déontologie.
Oui, trois fois oui. Et Patrick Evenot l'a rappelé, le contexte a changé. Plus on parlera de déontologie avec le public, mieux ce sera. C'est le moment ou jamais de enfin parler déontologie, enfin parler de ce métier, enfin dire qu'il y a des règles. Des règles à respecter, et que parfois on fait tout et n'importe quoi. Et on l'a vu avec Dupont de Ligonnès. Donc, il faut engager le débat. Pour l'instant, les instances de médiation, elles sont très faibles. Il y a quelques médiateurs dans quelques grandes rédactions, il y a quelques SDJ, mais elles sont peu nombreuses.
C'est le cas ici, c'est le cas à France Télé, c'est le cas au Monde.
Elle est très fragile. Donc, je pense qu'il faut donner sa chance à ce conseil de déontologie journalistique et de médiation. Mais à tout le moins, il faut s'en saisir, parce que je pense qu'on peut s'en sortir par le haut grâce à cet outil.
Il y a une vraie fracture aujourd'hui dans la presse autour de ce conseil. Oui. Élise, par exemple, vous en pensez quoi?
Moi, j'y suis plutôt favorable, parce que dans tous les pays où des conseils de déontologie journalistique ont été mis en place, il y a vraiment eu un dialogue qui s'est renoué entre le public et les journalistes globalement. Il y a une défiance réelle, il faut la regarder en face quand même, cette défiance. Il faut renouer ces liens absolument avec le public. L'une des manières de le renouer pour moi, c'est effectivement par l'intermédiaire de ce conseil de déontologie, en expliquant quelles sont nos méthodes, comment on travaille, en étant le plus transparent possible. Moi, j'y suis donc favorable en théorie. Après,
sur le principe.
Après, c'est comment le mettre en place. Quelle est la place des journalistes qui y sont, puisque c'est tripartite. Hein, pour le coup, c'est patron, journaliste public aujourd'hui, ce conseil de déontologie. Moi, je ne suis pas contre le principe. Dire aujourd'hui non par principe, ça veut dire que on s'écarte de ça. Et je le répète, à chaque fois, en Belgique, en Suède, partout ailleurs où ça s'est mis en place, la confiance, petit à petit, s'est renouée entre le public et les journalistes. Donc alors, ça me semble très important.
Ça existe dans 18 pays européens, on peut le préciser. Et puis, un des éléments de la suspicion, c'est que finalement, il a été voulu à l'origine par le pouvoir. Oui. C'est un des éléments qui, effectivement, a un peu perverti le débat. Fabrice Arfi, vous êtes sur quelle ligne ?
Moi, je suis sur la ligne de... Je suis... par principe, pour, pas celui-là, pas comme ça, pas dans ce contexte.
Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. Ce que vous avez dit, d'abord le contexte, c'est une, il y a un vent d'initiative qui vient du gouvernement. Pas seulement du gouvernement.
Parce que par nature, c'est une mauvaise chose.
Du pouvoir,
on peut avoir une bonne idée.
Mais je vous parle du contexte. Oui, mais c'est aussi, pas seulement le gouvernement, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon, qui, depuis des années, dit qu'il faut un conseil de la presse, tout en écrivant que la haine des médias est juste et saine. Deuxièmement, nous sommes dans un contexte.
Mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui va faire le
conseil. Non, bien sûr. Bien sûr, mais il pourra faire partie de ceux qui, évidemment, saisiront le dit conseil.
Comme tout citoyen, il aura le droit. Oui.
Mais bien sûr, comme tout citoyen, évidemment. Mais je ne veux pas donner du tout le sentiment de ce...
Comment non, dire, mais Fabrice, pardon, j'essaie de se soustraire. Parce qu'en préalable, vous avez dit, je suis favorable au principe.
Oui, je suis favorable au principe. La façon dont ça a été fait, la façon dont les discussions sont menées, la façon dont M. Patrick Evenot, par exemple, est réagi quand 25 SDJ disent « Attention, nous, on n'est pas sûr de la manière dont ça se fait. » M. Evenot, président de ce conseil, dénonce des manipulations et des fake news des SDJ de 25 mais médias français. Je personnalise parce que celui qui veut être l'arbitre des élégances de ce conseil de déontologie, si quand on n'est pas d'accord avec lui, ce qu'il renvoie c'est fake news, manipulations, je pense que c'est un problème. Par ailleurs, contrairement à d'autres pays européens qui ont été cités, nous avons un code de déontologie depuis 150 ans. Qui s'appelle la loi de 1881. Moi, je passe une partie non négligeable de mon temps à répondre de tous mes écrits, de beaucoup de mes écrits, devant la justice. Et c'est, je peux vous le dire et vous le savez, des procédures qui sont longues, qui sont fastidieuses. Nous justifions la moindre virgule de ce que nous faisons. Bien sûr que nous avons à répondre de ce que nous écrivons devant la loi et devant le juge qui est le garant des libertés avant d'être celui de la
répression. Mais on peut mettre en cause des traitements éditoriaux qui ne relèvent pas forcément du pénal. Est-ce qu'il n'y a pas un espace de médiation et de discussion autour de la manière dont nous traitons
le
sujet.
Bien entendu, c'est pourquoi je dis
sans qu'on ait besoin d'aller devant
le juge. C'est pourquoi je dis sur le principe, je suis pour, mais pas la façon, pas de la manière avec laquelle je vous donne un autre exemple. La question du financement du Conseil. Argent public, pas argent public, comment ça se fait? La question de la présence de ce qu'ils appellent les éditeurs, les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur Dassault, Monsieur Patrick Drahi, Monsieur Bolloré vont nous dire ce qu'est la déontologie. Vous voyez? Donc, je trouve que quand on crée un conseil de déontologie et qu'il y a 25 SDJ qui disent on a des prudences, c'est un peu comme la réforme des retraites. C'est que peut-être ça s'est pas très bien passé dans la discussion et que peut-être il faut reprendre les choses plus patiemment au lieu de vouloir passer en force comme ça.
Élise, je vous vois réagir.
Non, moi c'est vrai que la chose qui moi me préoccupe le plus, c'est de renouer ce lien avec le public et de pouvoir expliquer tout ce qu'on fait.
Qui est quand même sérieusement dégradé.
Qui est très dégradé.
Qu'on n'a pas à s'expliquer.
Exactement. Et moi, je pense simplement par rapport à ce que dit Fabrice qu'il faut faire de l'entrisme, c'est-à-dire que si ce conseil de déontologie existe, il faut s'en emparer, il faut rentrer, il faut nous bouger les lignes à l'intérieur, si des choses ne nous conviennent pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans quelque chose de monolithique, là, on est quelque chose qui est naissant, qui est en train de peut-être enfin arriver en France, et je pense qu'il faut vraiment rentrer à l'intérieur et y insuffler toutes les valeurs qu'on veut y voir défendre, c'est très important. Et oui, bien sûr, Fabrice a raison, on peut se défendre devant la justice et avoir à se justifier de chaque chose. Mais il y a énormément de choses sur lesquelles le public s'interrogent, qui n'ont rien à voir avec la loi. Nos modes de traitement de l'information, la manière dont on travaille, quelles sont nos règles de déontologie, le respect du contradictoire, le respect de la vie privée, qui sont des choses qui nous animent tous, simplement. Pour nous, c'est évident, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent ou qui nous lisent, non, ils ont le sentiment qu'on balaye tout ça d'un revers de main, parce qu'il faut aller très vite, comme vous le disiez pour Xavier Dupont de Ligonnès, ou parce qu'on veut être les premiers, ou parce que c'est un scoop. Pas vrai. On a le devoir de s'expliquer vis-à-vis du grand public et donc de s'emparer de ce conseil de déontologie.
Luc Brunner, on vous a pas entendu sur ce sujet.
Non, moi je suis à peu près sur la même ligne que Fabrice. Je pense que sur le principe, c'est intéressant d'avoir un lieu, une instance de discussion et d'intervention. Je pense que les conditions sont moyennement réunies vu l'histoire de ce conseil. Je pense par ailleurs
l'histoire, c'est-à-dire son origine.
Oui, son origine et puis même la façon dont il a évolué ces derniers mois sans discussion suffisante visiblement, notamment avec les sociétés de journalistes qui sont aussi des contre-pouvoirs. Je peux vous dire que la Société des rédacteurs du Monde nous donne aussi à l'intérieur de notre rédaction un lieu de discussion, de contestation même s'il le faut de nos décisions éditoriales. Je pense par ailleurs que ce conseil risque de ne pas aborder la question clé de la malinformation qui est celle de l'information low cost. Pour moi, une partie importante des difficultés et des tensions entre les journalistes et le public vient du fait que malheureusement une partie de l'information aujourd'hui a dérivé sur du low cost et donc sur de la reprise d'information des confrères, sur le fait que les médias reprennent toujours les autres médias. Ça oui, je pense qu'il y a un enjeu sur la fabrication de l'information low cost contre laquelle tous autour de cette table ici on essaye de travailler en mettant des ressources journalistiques. La cellule d'investigation de Radio France y travaille. Au monde on a 500 journalistes, ça coûte cher, ça nous amène à avoir une politique d'abonnement numérique qui est extrêmement développée. C'est une façon de lutter contre l'information low cost qui, pour moi, est aujourd'hui le cœur de la difficulté des relations entre les médias et les publics. Et je pense que malheureusement, ce sujet ne serait pas évoqué dans le cadre de ce comité de déontologie.
Mais je vous ai vu trépigner, Jacques Trenceau.
Oui, parce qu'il y a des erreurs qui ont été formulées. Déjà, le gouvernement n'est pas à l'origine de ce conseil, il faut le dire
et le
répéter.
C'est lui qui l'a suggéré quand même.
Non, c'est antérieur. Les travaux ont commencé antérieurement, en 2006, j'y étais. Après, le contexte est mauvais, parce que on voit que le gouvernement, avec différentes lois, vient brouiller le contexte et faire peur aux SDJ notamment. La présence des éditeurs parmi les collèges, les trois collèges de ce conseil de déontologie, je vais vous faire sourire, mais moi j'y ai adhéré en tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur parce que je suis journaliste et patron de presse, et j'entends bien que la parole des patrons de presse soit également porté dans ce conseil, parce qu'il est sain de parler aussi avec les patrons. Et ce sera très intéressant de voir comment les discussions s'engagent, si elles s'engagent, avec Jean-Michel Bailey, patron de la Dépêche du Midi. Donc, évidemment, le conseil ne va pas tout régler. Évidemment, le conseil ne va pas régler la malinformation, la carence abyssale de moyens. Mais ce lieu peut permettre de construire quelque chose. Donc, je ne vais pas me répéter, mais je pense qu'il faut donner sa chance au conseil de déontologie.
Alors je vous propose de ne pas aller trop loin. On a compris qu'effectivement il y a des lignes de fracture, il y a des différences, il y a des divergences, il y a un vrai débat. Après il y a un dernier point, Élise Lucet, qu'on peut peut-être aborder, c'est il y a aussi une peur d'une multiplication de strates. Finalement, il existe déjà des médiateurs, on l'a dit tout à l'heure, au sein de certains journaux. Il existe des comités d'éthique, comme c'est le cas à Radio France. Il existe aussi un CSA, qui a un regard sur ce que nous faisons. Il existe une loi de 1881 et il existera donc un nouveau conseil de déontologie, il y a aussi ça derrière.
Oui, moi je pense qu'il faut être très attentif, mais si on sent une fracture entre presse écrite et audiovisuel aussi aujourd'hui, à part Jacques qui est pour ce conseil de déontologie, Jacques Trenceau, c'est parce que nous, on est déjà soumis, pour le coup, au CSA, qui intervient très régulièrement, qui est saisi, et qui au bout d'un nombre de saisines va nous convoquer, va nous demander de nous justifier. Donc on a déjà, entre guillemets, cet arbitre de déontologie qui est le CSA, et pour le coup, nous, très franchement, nous préférons que cette déontologie soit transférée au conseil de déontologie justement et que le CSA se déporte, c'est-à-dire ne s'occupe plus des problèmes de déontologie et que le CSA laisse faire ça au conseil de déontologie uniquement. On ne peut pas multiplier les organes de, entre guillemets, contrôle.
Faire un millefeuille, quoi.
Ça, c'est impossible. Mais je pense aussi que si nos amis de presse écrite sont opposés au conseil de déontologie, c'est qu'ils n'ont pas de CSA, eux. Ils vont peut-être l'avoir bientôt parce que d'après ce que j'ai entendu ou compris, le CSA va s'occuper de toutes les publications numérique désormais, donc ça va être étendu à tout ce qui peut être publié en audio, vidéo, sur les sites des différents médias. Donc peut-être qu'ils vont avoir, eux, affaire aussi au CSA. Mais objectivement, moi, si le conseil de déontologie s'occupe de la déontologie, si le CSA s'occupe d'autre chose...
Le CSA qui s'en occupe modérément. Hein. Regardez une journée d'émission de CNews, vous me direz que le CSA intervient en termes de déontologie.
Non, très franchement...
Soyons sérieux, c'est pas le cas
aujourd'hui. Non, Luc, je peux pas vous laisser dire dire ça, que ce soit sur Envoyé spécial ou Cache Investigation, à chaque fois qu'il y a des saisines de la part des téléspectateurs et que ces saisines sont importantes...
C'est qu'ils ont plus d'auditeurs aussi, de téléspectateurs.
C'est possible. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est instruit par le CSA. Donc vous pouvez pas dire que le CSA ne fait rien en matière de déontologie.
Je prenais l'exemple de CNews, on a vu des dérapages majeurs et des niveaux d'intervention sur des questions déontologiques quand même assez décisives, qui sont des niveaux d'intervention assez...
Ce qui veut dire qu'il y a un chantier et que le problème est loin d'être réglé et que la bonne solution est peut-être trouvée, peut-être pas. En tout cas, on vous mettra pas tous d'accord, mais je suis ravi parce que souvent notre débat donne l'impression, et c'est le cas d'ailleurs, de confrères qui discutent et qui sont souvent d'accord, mais ça permet au moins d'exprimer ce que ressent la profession face au sujet, aux problématiques de l'investigation. Et là, pour le coup, on reste sur un désaccord, et donc ça fait pas de mal non plus de temps en temps, même si on en arrive à la trêve de Noël. Donc je vais vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce débat.
Merci.
Ce Secret d'Info spécial, donc discussion, a été préparé par Martin Broyer, je le précise. Il était réalisé par Christophe Humbert avec Tristan Gratalon à la technique. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.